Bonsoir mes frères et sœurs, nous sommes devant Dieu et nous voulons savoir certaines choses. Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Tiens, c'est une question ça, puisque la Bible en parle régulièrement. David a fait une prière dans le psaume 139, j'espère que c'est votre prière, notre prière. Dans le psaume 139, au verset 23, il a le souci, il a composé ce psaume, il est inspiré par le Saint-Esprit, il révèle des choses extraordinaires, en veux-tu, en voilà, mais il termine avec une prière. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a été inspiré qu'on va toujours aller bien. Et David dit ceci dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est une bonne prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Eh oui. Ce soir, chacun d'entre nous, nous serons bénis si Jésus exauce cette prière. Si nous disons, mais Seigneur, mais sonde-moi. Tu connais mon cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. Il n'y a que Dieu, peut-être que vous ne le connaissez même pas. Ou vous en connaissez que les 20% ou les 50%, est-ce que vous pouvez dire, oui, moi je me connais à 100%? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je me connais à 100%? Personne. Personne. Demandez à Pierre, vous allez voir s'il se connaissait à 100%. Hein? Éprouve-moi. Regarde sur quelle voie je suis. Je pense souvent aux gens qui ne seront pas prêts à l'enlèvement. Je pense souvent aux gens qui s'imaginent qu'ils sont sauvés et qui ne le sont pas. Et un chrétien honnête, à un moment donné, régulièrement, on le fait le dimanche quand on prend le pain et le vin, mais quand même, c'est une chose de dire, mais Seigneur, montre-moi sur quelle voie je suis. Montre-moi si je suis un chrétien agréable. La Bible dit, mais examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est écrit ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y a des gens, des fois je leur dis, alors vous en êtes où avec Dieu? Bon, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas? Non, je ne sais rien. Je lis, mais je sais. Mais quand même, moi je crois que je suis contre l'introspection morbide, c'est pas biblique. Mais quand même, on peut s'examiner. Examinez-vous, examinez ce qui est agréable à Dieu. Tiens, est-ce que je fais ce qui est agréable au Seigneur? Vous savez Belshazzar, je pensais à Belshazzar ce matin, quand je préparais ma petite réunion. Belshazzar, vous avez lu le livre de Daniel? Vous avez vu cet homme qui savait, il savait ces choses. Mais le jour où Dieu l'a éprouvé, monsieur qui faisait le malin avec les choses du temple, vous savez, il avait volé dans le temple les ustensiles et devant ses amis, il a voulu flamber, comme on dit aujourd'hui. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Et au moment où il s'est moqué des choses de Dieu, tout d'un coup, sur le mur de sa salle à manger, il y a une main qui est apparue et qui a écrit quelques mots. Et ces mots signifiaient, tu as été trouvé léger. Et cette nuit même, cette nuit-là, Belshazzar est mort. Voilà un homme qui aurait eu la grâce de s'éprouver. Il savait ces choses. Quand vous lisez, toi, d'ailleurs Daniel, le prophète, va dire, mais toi, Daniel, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches toutes ces choses. Il savait, il connaissait, il savait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il avait Daniel à quelques centaines de mètres de chez lui, il ne le savait même pas. Combien de fois j'ai dit, Boudu, ça serait merveilleux d'avoir le prophète Daniel à 300 mètres de la maison. Mais on a mieux que Daniel. On a le Saint-Esprit dans notre cœur. On ne le réalise peut-être pas, mais on a le Saint-Esprit dans notre cœur. Et cette prière que David a faite, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, montre-moi, mais vraiment montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Alors, comme je vous le dis souvent, parce que c'est quelque chose de facile à faire aujourd'hui, chacun avec Internet, on peut, avec une concordance, prendre le mot agréable, le mot plaisir, et vous allez voir tout ce qui fait plaisir à Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu. Alors on va commencer par quelques exemples. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais je voudrais que nous comprenions une chose, c'est qu'on est tous dans l'épreuve, on a tous des épreuves. Belshazzar était dans la bénédiction, il n'a pas su le pauvre saisir la grâce d'être dans la bénédiction. Job était dans l'épreuve, Job il était éprouvé, vous savez on est tous éprouvés. Et quand Job est éprouvé, je lisais encore tout à l'heure le psaume, le Job chapitre 22, quand il dit, mais s'il m'éprouvait, pourtant il y était dans l'épreuve, mais il dit s'il m'éprouvait, comme s'il n'y était pas, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Il est dans le combat, il est dans la difficulté, mais il sait, il sait. Il sait où il en est. Parce que dans l'épreuve, malgré ses douleurs, malgré des paroles parfois même difficiles qu'il peut dire, quand il dit « je suis dégoûté de la vie », c'est des paroles difficiles, ça. Mais il le vit, mais il ne parle pas contre Dieu. Et je peux vous dire que quand Job a été éprouvé, Dieu l'a béni. Nous sommes tous à la même enseigne. Alors par exemple, au niveau de la louange, tiens donc, au niveau de la louange, de la prière, de l'intercession, comment nous louons Dieu? Alors dans le psaume 69, il nous est dit ce qui plaît à Dieu. Parce qu'on loue, mais comment on loue Dieu? Vous avez chanté, « Viens, mon âme te réclame ». Vous l'avez chanté? Vous l'avez chanté comment? Il n'y a que Dieu qui sait comment vous l'avez chanté. Il n'y a que Dieu qui sait comment les musiciens l'ont joué. S'ils l'ont joué parce qu'il fallait jouer, ou s'ils l'ont joué de tout leur cœur. Dans le psaume 69, au verset 31, donc, David explique certaines choses. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques ». C'est ce qu'on vient de faire. Je l'exalterai par des louanges. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le David? Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Donc, s'il y a une chose que Dieu aime, c'est que nous lui chantions des cantiques, que nous lui apportons de la louange. Bon, on vient de le faire. Mais comment je l'ai fait? Comment vous l'avez fait? Vous l'avez fait avec votre cerveau ou vous l'avez fait avec votre âme? La Bible dit que c'est agréable à Dieu. Mais pourtant, quand on voit les textes bibliques, on voit bien que Dieu a été amené de dire « Mais éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Alors on pourrait dire « Mais on ne sait pas. » Quelqu'un, vous voyez, de léger pourrait dire « Mais on ne comprend rien à ce que Dieu veut. » D'un côté, il dit que cela lui est agréable. Après, dans le prophète Amos, il dit « Mais ça ne me plaît pas. » Eh bien, on l'a vite compris, que si ça ne plaît pas à Dieu, c'est que ce n'est pas fait dans un bon état de cœur. Parce que ce sont des choses qui plaisent à Dieu. C'est écrit quand on doit offrir un culte à Dieu. On peut le lire dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu. Comment on doit offrir un culte à Dieu? Tiens, on peut le lire. Alors, dans Hébreux, c'est à la fin du chapitre. Oui, Hébreux chapitre 13. Verset 15. C'est important, la louange, est-ce que c'est important la louange pour vous? Comment on loue Dieu? Tout à l'heure, vous étiez dans les bouchons aussi? Qui était dans les bouchons? 1h15 pour venir de Saint-Orens. Et moi, je me suis dit, tu ne t'inquiètes pas, tu vas louer le Seigneur. À quoi ça sert de s'inquiéter? À quoi ça sert, franchement? Ça vous fait aller plus vite? Mais Dieu regarde au cœur. C'est quelque chose que l'on voit toujours dans la Bible. Dieu regarde au cœur. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ce n'est pas le dimanche matin. Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il faut l'expliquer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que la louange, ça devait être des lèvres qui s'exprimaient, qui disaient merci. 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 Vous l'avez dit combien de fois merci au Seigneur? Aujourd'hui, combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur aujourd'hui? Tiens, je serais curieux, c'est une mauvaise curiosité peut-être, je serais curieux de savoir combien de fois, individuellement, nous avons dit merci au Seigneur. Vous savez, c'est hier, j'en reparlerai certainement dans une prédication, je regardais un témoignage d'un chrétien qui a été enfermé dans des géoles en Corée du Nord. En Corée du Nord, vous savez que c'est le pays le plus fermé de l'Évangile, le plus fermé à l'Évangile. Et ce gars, il disait, que c'était un luxe d'attraper un rat vivant pour le manger, vivant, pour le manger cru. Il disait que quand ils arrivaient à attraper un rat vivant, c'était du luxe. Moi, je crois qu'on peut dire merci au Seigneur pour le pain qu'on a chaque jour. Et on pourrait multiplier les exemples. Des fois, on se demande pourquoi on a attristé le Saint-Esprit. Mais parce qu'on a oublié que s'il y avait quelque chose qui était bien agréable à Dieu, c'était le fruit de lèvres qui confesse son nom, et pas le dimanche matin, mais tout le long du jour et de la nuit. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait naître dans ce pays, ou de m'avoir amené dans ce pays. Parce que Dieu vous a peut-être amené dans ce pays.
Vous êtes peut-être d'Afrique ou des Antilles, j'en sais rien. Que vous soyez français ou pas, ça n'a aucune importance au niveau spirituel. Mais si Dieu vous amène dans ce pays, est-ce que vous bénissez le Seigneur? Ou est-ce que vous râlez toujours? Ah oui. Il y a des choses qui sont agréables à Dieu. Et quand Dieu dit, mais éloigne de moi le bruit de tes cantiques, c'est qu'il ne supporte pas cet antagonisme qu'il peut y avoir dans notre façon de faire. C'est-à-dire, je chante, j'ai soif de ta présence. Merci Seigneur pour tes bontés. Je te bénirai en tout temps. Et puis après, dans le quotidien, on est tout le temps en train de se plaindre et de râler et de gémir. La louange, je l'exalterai par des louanges. Alors vous pouvez, ce sujet, on pourrait le, croyez-moi, le prolonger. Mais c'est pareil pour les offrandes. Pour les offrandes. Est-ce que ce n'est pas le même problème pour les offrandes? Comment on donne son offrande au Seigneur? Est-ce que c'est une grâce de donner son offrande au Seigneur? Ouais. Vous savez, l'autre jour, je vous ai dit, vous voyez comment ça tombait bien à propos de qu'on travaillerait avec le conseil d'administration par rapport à l'achat de Bibles, etc., pour des endroits où... Il y a des endroits où ils n'ont pas de Bible. Il y a une dame en Algérie qui a fait un songe. Écoutez bien. Elle a fait un songe. Dans la nuit, elle voit quelque chose et quelqu'un dans ce brouillard qui lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le lendemain, on lui offre une Bible. Quelqu'un lui offre une Bible. Elle ouvre la Bible comme ça. Elle tombe sur le texte de Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Et elle s'est convertie. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Ça s'est passé il y a quelques jours en Algérie. Mais moi je dis, mais Seigneur, donne-nous la grâce, comme je vous le proposais dimanche, qu'on puisse acheter des Bibles pour ses frères, enfin, ses futurs frères et sœurs. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Et tout est valable. Et c'est là qu'on voit que les choses doivent être bien comprises. Quand on apporte son offrande, qu'on dit, mais ça va servir pour le salut des âmes. Vous n'êtes pas heureux que par hasard, on ait offert une Bible à cette Algérienne dans un petit village? Et en plus, il y a un pasteur qui me dit, moi j'ai à cœur d'aller en Algérie, évangéliser les villages. Vous savez, je ne pense pas que c'est pour le tourisme, comme pasteur de chez nous, ayant envie d'aller en Algérie, faire de l'évangélisation. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Mais je voudrais que nous comprenions bien qu'il y a un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce qu'on peut faire les choses, on peut dire les choses, avec beaucoup de ferveur. Même un pasteur, voyez, peut prêcher avec beaucoup de ferveur. C'est pas pour ça qu'il plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un état d'esprit. Il y a des choses qui sont agréables à Dieu, et nous devons absolument savoir. Mais je chante, oui, je chante bien. Voilà, ce matin, j'ai téléphoné à ma sœur pour lui souhaiter bon anniversaire. Elle me dit, oh, que tu chantes faux. Mais je dis, je chante faux, mais je chante de tout mon cœur. Voyez, et je crois que Dieu regarde au cœur. C'est écrit ça que Dieu regarde au cœur? Vous chantez peut-être faux, celui qui chante à côté de vous le dimanche. Il chante juste ou il chante faux? Les stagiaires, eux, n'ont pas osé me dire que je chantais faux. Mais une chose est sûre, comment chantons-nous? Comment donnons-nous? Ce sont des choses qui plaisent à Dieu ou qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, on va voir d'autres cas. Par exemple, dans Romains au chapitre 12, c'est important l'état d'esprit. Parce que vous avez remarqué que le Seigneur Jésus a été très sévère par rapport aux hypocrites. Vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué combien Jésus a été très sévère avec les hypocrites? Pourquoi Jésus a été sévère avec les hypocrites? Pourquoi il n'a pas été autant avec les prostituées, avec les publicains? Pourquoi? Est-ce qu'il faisait des différences? Parce que c'est quelque chose qui est sévère, l'hypocrisie. Parce qu'on joue un rôle en vérité. On joue un rôle en vérité. Voilà. Romains chapitre 12, il nous est demandé, là aussi un état d'esprit, regardez, Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez au travers de ces deux versets que dans la volonté de Dieu, il y a une progression, c'est-à-dire je découvre ce qui est bon, puis je découvre ce qui est agréable, et puis alors là c'est le top. J'en arrive, à cause de ma consécration, de mon obéissance, de ma fidélité, de cet état d'esprit, à faire à ce qui est parfait. Vous savez, je disais dimanche que Dieu voit ses enfants. Quand Dieu voit quelqu'un qui lui fait confiance, ça lui fait plaisir. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il y a des gens qui prient, ils prient, on leur dit de prier une heure, ils vont prier une heure, mais ils ne font pas confiance à Dieu. Mais il y a des gens, ils font confiance à Dieu. Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ils s'inquiètent de rien. Dieu dit le lendemain aura soin de lui-même, eh bien ils le croient, eh bien ça plaît à Dieu. Est-ce que c'est important pour vous ça? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a des choses qui sont agréables à Dieu. Vous ne voulez pas les découvrir? Eh bien, quand on offre sa vie, quand, dans la sainteté, quand on offre ça avec compassion, parce que l'œuvre de Dieu, ça se fait avec compassion. On aime les gens parce qu'il faut aimer tous les gens. C'est pas facile d'aimer tout le monde. Non? Est-ce que c'est facile pour vous d'aimer tout le monde? Mais quand on a de la compassion, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Seigneur, donne-moi de la compassion pour Toulouse. Ça ne vous arrive pas de demander, Seigneur, donne-moi de la compassion pour aimer les gens? Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas toujours aimables. Oui ou non? Il y a des gens qui sont aimables, c'est facile. Il y a des gens avec qui ça se passe bien, non? Est-ce qu'il y a des gens aimables? Oui, il y a des belles filles aimables. Il y en a qui le sont moins, vous voyez? T'as vécu. Mais je veux dire, mais vous savez que c'est vrai, on le dit sous l'humour, mais vous savez qu'on peut demander de la compassion. Seigneur, donne-moi de la compassion pour aimer les gens avec qui je travaille, pour aimer les gens avec qui je bosse tous les jours. Donne-moi de la compassion. Et cette affaire de cœur, cette vie vécue dans la compassion, dans la sainteté, c'est agréable à Dieu. Vous l'avez vu, c'est agréable à Dieu. Après, il y a un autre état d'esprit. Je me garde de ce qui est mauvais et je découvre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prient toute leur vie, que ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais en vérité, ils s'en fichent pas mal de la volonté de Dieu. Ils s'en fichent pas mal. La volonté de Dieu, c'est sérieux. On est dans Romains au chapitre 12 par rapport à la compassion qui fait qu'on va rentrer dans ce qui est bon et agréable à Dieu. Ce qui est bon, quelqu'un qui accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est bon quand quelqu'un accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur? Oui, c'est bon. Mais il y a des gens qui restent toute leur vie comme ça. Ils ont accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Mais après, bon, ils en restent là. Ils restent des enfants, comme Paul dit aux Corinthiens. Voilà, vous êtes des enfants. Un enfant, bon, vous ne pouvez rien lui confier. C'est un enfant, vous savez. Ça serait dingue d'avoir un gosse toujours à 5 ans. Vous revenez 30 ans après, il a toujours 5 ans. Mais il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Donc, alors, bon, c'est bon, mais c'est quand même bon. Ce sont devenus des enfants de Dieu. Ils aiment Jésus, mais ce sont toujours... Il y avait un frère qui avait écrit un livre, il y a longtemps, il y a 30 ans en arrière. Il avait eu une vision une nuit. Et le Seigneur, il avait dit à Dieu, « Seigneur, montre-moi quel est l'état de mon Église. » C'était quelque chose qui le préoccupait. Et vous savez le songe qu'il a fait. Après, oui, c'est beaucoup plus sérieux que ça, mais c'est pour vous donner une idée. Il a fait un rêve et il voyait son Église. Il n'y avait que des bébés avec des biberons. Que des bébés. Il n'y avait que des bébés. C'était une... Dieu lui avait parlé que dans l'Église, tous les chrétiens, c'était des bébés. C'était pour lui, ça a été une véritable épreuve. Mais c'est ce qui peut arriver. On en reste à, c'est bon, c'est quand même bon. Moi, si vous me dites dans un an, il va y avoir 20 000 Toulousains qui vont se convertir, mais ils resteront des enfants. Bon, je vous avoue que ça me ferait quand même plaisir que 20 000 Toulousains se convertissent, même s'ils restent des enfants. Mais dans le cœur de Dieu, il y a ce désir de devenir agréable à Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Éprouve-moi. David, cet homme selon le cœur de Dieu, se contentait pas de faire de beaux psaumes. Il en arrive à ce stade, comme c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce soir. Je veux pas être un chrétien, qu'un chrétien enfant. Je veux grandir. Je veux faire ce qui est agréable. Après, ce qui est parfait, c'est clair que j'espère que Dieu nous accordera la grâce d'aspirer à devenir des chrétiens parfaits. Il y en a qui aspirent à devenir des chrétiens parfaits? Est-ce qu'il y en a qui... Ben oui, moi j'aspire, parce que je crois qu'on en vit. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, moi j'ai vu des gens qui me disent, monsieur Gou, vous savez, je priais, mais maintenant je ne prie pas, je prie et je fais confiance à Dieu. Ah, c'est sûr que ça change. Mais on voit qu'il y a des gens qui progressent dans leur vie avec Dieu. Vous voyez, l'état d'esprit. Et puis après, la façon de voir des opinions. Un peu plus loin, au chapitre 14, il est parlé des opinions. J'en ai souvent discuté parce que c'est là qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup de bébés dans l'église ou d'enfants. Des gens qui pinaillent sur des opinions. J'ai souvent parlé des jours. Vous savez, Romains chapitre 14, les jours. Ah, les jours. Alors, je vous pose la question parce que je l'ai déjà posée. C'est quoi le plus important pour vous? Le dimanche ou les autres jours de la semaine? Allez, on va faire un petit sondage. C'est quoi le plus important pour vous? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et après, il y a 6 jours, c'est les jours de la semaine. C'est quoi le plus important? Parce que... Non mais c'est ce qui se passe, c'est la vérité. Moi je l'ai assez vu dans les églises, des chrétiens qui se sont presque disputés parce que certains estimaient que le dimanche était supérieur au jour de la semaine. Et certains disaient non, tous les jours sont égaux, qu'est-ce que vous racontez? Alors regardez Romains chapitre 14 verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, voyez? Moi, j'ai dit aux gens, mais que vous fassiez une différence entre le dimanche et les jours de la semaine, moi, ça ne me gêne pas. Par contre, est-ce que, même si vous avez cette différence, vous obéissez au Seigneur tous les jours de la semaine? Vous voyez, l'important, ce n'est pas qu'on fasse une différence entre les jours. L'important, c'est qu'on obéisse au Seigneur tous les jours de la semaine. Et regardez, alors je parle, c'est un état d'esprit que je sors du contexte de Romains 14, mais regardez quand même, versets 17 et 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, parce qu'il fait allusion aussi à la nourriture. Il y a des chrétiens qui vous diront, oui, si c'est les chrétiens, les vrais chrétiens, ils sont végétariens. Mais on l'entend, j'ai entendu ça. Moi, je l'ai entendu. Hein. Un chrétien, il ne supporte pas qu'on fasse du mal à un poulet, donc on ne mange pas du poulet ou du rôti. Mais j'ai entendu ça. Un chrétien devrait être végétarien. Hier, j'entendais, en allant faire une visite, c'était mieux hier encore. J'entendais une femme qui parlait des végétaux, qu'il ne fallait pas peler des carottes parce qu'on pouvait leur faire du mal. Que les carottes avaient une sensibilité, hein, ou les oignons, et il ne fallait pas... Bon, je ferme la parenthèse parce que... Sans parole. Verset 17, c'est quand même plus intéressant. « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui, regardez bien, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez, il y a des choses qui sont agréables à Dieu, parce que c'est vrai, franchement, que quelqu'un... Moi, je respecte, et même je vous dis que je serai plus du côté de ceux qui estiment que le dimanche, c'est quand même le jour du Seigneur. Moi, pour moi, le dimanche, c'est important, le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il me semble que le dimanche, on ne travaille pas, quoique si, les pasteurs un peu quand même, mais on ne travaille pas, on se réunit, comme dimanche, vous voyez, il y a le culte, il y a la communion fraternelle, s'il y en a qui veulent rester manger ensemble, il y a le baptême l'après-midi. Moi, je trouve que c'est une bénédiction. Il y a deux familles qui m'ont demandé en même temps, est-ce qu'on peut présenter nos enfants ce jour-là? Moi, je trouve que le dimanche, oui, c'est le jour du Seigneur. Mais après, que ce soit le dimanche ou le mardi, il faut obéir au Seigneur, pareil. Mais quand on se respecte, c'est agréable à Dieu. Parce que ce que Dieu regarde, c'est le respect. Ah, Jérôme, lui, les jours sont tous égaux. Moi, je préfère le dimanche. Mais ce qui est important, c'est qu'on se respecte et qu'on dise, mais on va obéir au Seigneur tous les jours quand même. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Mais moi, quand je vois des chrétiens, ben c'est vrai que ça fait partie de ces bébés, de ces enfants, qui n'arrivent pas au bout de quelques années de conversion à accepter cette différence, et bien ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce qu'ils sont tout le temps en train de se chipoter pour des bêtises. Il faut respecter les convictions de chacun. D'ailleurs, au verset 5, je n'ai pas lu la fin du verset, mais il est dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il y a un état de cœur qui fait qu'on est agréable à Dieu. Vous vous rappelez Samuel? Samuel, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel, Dieu l'a choisi dans un contexte un petit peu compliqué. C'est dans ce contexte compliqué que Dieu a exaucé une femme qui a fait qu'elle a enfanté un garçon qui est devenu un homme de Dieu. Elle était enceinte et elle a enfanté le petit Samuel. 1 Samuel chapitre 3, verset... Alors, c'est où ça? Quand il est dit qu'il était agréable. Ah, Gérard. Je l'ai versé. 1 Samuel. 1 Samuel combien? 2:26. Voilà ce que ça coûte de ne pas le marquer. Vous voyez? 1 Samuel 2:26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Alors, ce n'est pas que physiquement, bien sûr. On s'en doute. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ce n'est pas parce qu'on est agréable à Dieu qu'on va être agréable aux hommes, attention. Il faut le dire quand même. Parce que laissez-moi vous dire qu'on est agréable aux hommes qui aiment Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que vous pouvez être agréable à Dieu et très désagréable aux hommes. Il faut le dire ça. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout agréables aux hommes à cause de leur piété. Mais là, c'était dans un contexte où les hommes qui entouraient Samuel aimaient Dieu. Donc c'est clair qu'il était agréable à Dieu et agréable à ces hommes qui aimaient Dieu, évidemment. Mais voyez, il était agréable à l'Éternel. C'est sûr que ça changeait des fils d'Élie qui, eux, vous connaissez les fils d'Élie, c'était deux pasteurs de l'époque qui faisaient des choses vraiment désagréables à Dieu, d'ailleurs qui ont été jugés, condamnés, qui se sont perdus, qui se sont autorisés à faire certaines choses et parce qu'ils n'ont pas été repris. Le père ne les a pas repris. Le père qui était en plus leur pasteur ne les a pas repris. Et Dieu a dit à cet homme, mais d'où vient que tu ne les reprends pas? Est-ce que vous éprouvez le besoin d'être repris? Est-ce que vous éprouvez le besoin d'être repris? Hein? Il le dit, Dieu, mais pour que tu viennes, d'où ça vient que tu honores tes fils plus que moi? Alors je crois que c'est bien d'honorer, de s'honorer les uns les autres. Est-ce que c'est bien? Bien sûr, c'est important de se... Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il honore son prochain, nous nous honorons, nous nous respectons, mais pas au détriment de la parole de Dieu. Pas au détriment de la parole de Dieu. Ça leur a coûté cher, croyez-moi. Et ça a coûté cher aussi au Père, de mépriser les choses de Dieu. Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel. Alors, je ne voudrais pas, parce que c'est un sujet que vous pouvez vous-même développer, tellement il y a de textes dans la parole de Dieu. Mais on va terminer peut-être avec un cas dans l'hébreu. Parce qu'il y a cet enseignement, mais après il y a le côté pratique. Vous connaissez Hébreu? On en a parlé l'autre jour, on avait parlé de trois caractères de la foi, et entre autres on avait parlé de Hénoc. Hénoc qui a vécu dans un contexte très 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 difficile. Et pourtant dans ce contexte difficile, il a fait un choix. Il a fait un choix. Comme ce soir, vous avez fait le choix de venir dans la maison du Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6 nous donne l'explication de ce témoignage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors regardez la sollicitude du Seigneur dans la suite. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je me dis quand même, comment Dieu est bon. Regardez bien quand même. Dieu nous montre qu'on peut lui être agréable. Que la première chose, la simple chose que le Seigneur nous demande, c'est que si on s'approche de lui, on croit qu'il existe. Il aurait pu être dit, car il faut, dans un contexte de témoignage, dans un contexte de... Quand même, c'est costaud cette affaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu jeûne deux fois par semaine. Il faut que celui qui s'approche de Dieu prie trois heures par jour. Voyez ? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pas merveilleux? Moi, franchement, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, ça me touche vraiment. Parce que je me dis quand même, on n'a aucune excuse devant Dieu. Il nous demande juste de croire en lui. Vous vous rendez compte? Je crois que Dieu est vivant. Je crois qu'il existe. C'est la seule chose que Dieu me demande. Eh bien, je veux le faire. Mais je le fais consciencieusement, comme je dis dimanche. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ce que Dieu a dit, c'est sérieux. Bon, vous savez, depuis dimanche, quand j'ai dit, j'ai rappelé que pour insister, le Seigneur Jésus a dit, mais le ciel et la terre passeront. C'est vrai, ça. Mais mes paroles ne passeront pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Rien de ce qui est écrit dans le Saint-Livre ne passera. Ça fait que chaque fois que vous lisez un texte, moi aujourd'hui je lisais des textes, et comme j'avais dit ça avec répétition dimanche, ça me revenait sans cesse, et tout ce que je lisais, je me disais, mais c'est vrai, tout ce qui est écrit, ça ne passera pas. ça vient de Dieu. Et quelqu'un qui est sérieux avec ce qui est écrit, eh bien, il reçoit le témoignage qu'il est agréable. Et Enoch, enlevé, représente tous les chrétiens qui vont être enlevés parce qu'ils ont une foi qui est agréable au Seigneur. Parce que c'est pas le fait de dire « mais moi j'ai foi, je crois ». Vous savez, l'autre jour, j'ai parlé avec un gars. Il m'a fallu presque m'énerver. Et il me disait qu'il était chrétien. J'ai dit « mais vous n'êtes pas chrétien ». Vous êtes croyant, mais vous n'êtes pas chrétien. Il me dit, monsieur, je m'endors avec ma Bible tous les soirs à côté de moi. Je dis, bon, mais ça c'est bien. Mais c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Mais si, monsieur Gauche, je suis chrétien. Je dis, non, vous n'êtes pas chrétien. Et il a fallu que... Alors ça fait deux, trois fois, il est quand même revenu. Ça fait deux fois qu'il revient. Et il me dit, merci, monsieur Gauche, pour vos enseignements. Mais il y a des gens, ils ont une foi, mais elle n'est pas agréable à Dieu. Ils ont une croyance, mais la vraie foi, elle est agréable à Dieu, par définition. Puisque la foi, elle vient de la parole. La parole, c'est non négociable. Mais quand je vois la quantité de gens, oui, Dieu a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Dieu a dit ça, mais moi, j'y crois, je ne le crois pas. Eh bien, ce n'est pas une foi qui est agréable à Dieu. En tous les cas, ce n'est pas comme ça que vous serez pris lorsque Jésus va revenir. Enoch représente les chrétiens qui vont être enlevés parce qu'ils ont une foi vivante. Il a marché pendant 365 ans avec Dieu, le jour où il a décidé d'être droit dans ses bottes, excusez-moi l'expression, et de dire, voilà, quoi que ce soit qui se passe, moi je marche avec Dieu. C'est exactement ce qu'on peut faire ce soir, et dire, moi, quoi que ce soit qui se passe, je marcherai avec le Seigneur, et de bon cœur, parce que je crois quand même que c'est une grâce de marcher avec Dieu. Vous ne croyez pas? Je discutais avec une rétrograde cette semaine, et je me suis autorisé à ne rien lui dire parce que c'était compliqué. Elle me dit, oui, mais de toute façon, ma vie, elle a été gâchée, je n'ai pas profité de la vie. Et les circonstances faisaient que je ne pouvais pas lui dire, si tu étais resté avec le Seigneur, tu n'aurais pas gâché ta vie. Je n'ai pas pu lui dire pour vous dire comment c'était compliqué. Vous savez ce que c'est que des fois, on ne peut pas dire certaines choses. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais je crois vraiment que marcher avec Dieu, c'est une bénédiction. Oui ou non? Je ne sais pas comment vous le voyez. Mais pour moi, c'est une faveur, un honneur, une grâce de dire, oh Dieu me demande ça, je le fais. Chanter, mais je vais obéir à Dieu. Je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Dimanche, vous entendrez un frère qui va prendre le baptême. C'est particulier l'expérience qu'il a faite par rapport à son cursus. Une fois qu'il a entendu la parole de Dieu, il vivait avec une rétrograde. Cette fille avait rétrogradé, il l'avait rencontré. En fait, c'est un truc vraiment compliqué. Mais elle a décidé de revenir à Dieu. Elle a dit, tu veux venir à l'église? Oh, mais non, ton église, tu parles. Et il est venu et il a été convaincu de péché. Mais quelque chose de merveilleux. Il va résumer son témoignage. Mais voyez, quand il a entendu la parole de Dieu, il a dit, mais moi, je veux mettre ma vie en règle. C'est beau, ça, non? C'est pas ça, la foi agréable à Dieu? Seigneur, tu me montres quelque chose? Eh bien, je le fais. Ah, il dit pas, oui, vous comprenez, mais non, je ne peux pas demander pardon, ça va. Mais qui on est pour ne pas demander pardon? Si Dieu dit pardonner, comme nous pardonnons, eh bien on pardonne. J'y arrive pas, mais il demande à Dieu de l'aide. Est-ce que Dieu peut nous aider à pardonner? Est-ce que Dieu peut nous aider à aimer? Est-ce que Dieu peut nous aider à prendre une victoire? Mais bien sûr, mais on le sait. C'est que Cette foi, la mitigée, camouflée par plein d'excuses, c'est pas la foi qui est agréable à Dieu. En tous les cas, c'est pas la foi qui va nous donner la victoire. C'est pas la foi qui va nous maintenir prêts quand Jésus va revenir. Parce que vous savez, quand Jésus dit, mais beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, c'est quand même des prophéties terribles, ça. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas cherché à savoir ce qui était agréable à Dieu. Et si vous prenez une concordance, je peux vous dire que vous allez voir, oh, celui qui est intègre, lui est agréable. Eh bien, je vais être intègre. C'est quoi être intègre? Eh bien, Dieu a dit un truc, on le fait. Point. Celui qui est juste est agréable à Dieu. C'est quoi celui qui est juste? Celui qui est juste à l'heure? Tac. Je suis arrivé à 8h30, monsieur Gauche, je suis juste à l'heure. C'est pas tout à fait ça, la justice. La justice, c'est Dieu l'a dit, je le fais. Celui qui pratique la justice, lui est agréable. Alors, c'est un sujet simple, mais il correspond à cette prière de David. Sonde-moi, montre-moi. Demain matin, je vais lire ta parole. Je vais peut-être lire que 5 ou 6 versets. Mais ces 5 versets vont m'aider à sonder mon cœur. Je vais lire dans les épîtres, parce que ça parle aux églises. Tiens, mais je vais sonder mon cœur. Oula, ça je ne le fais pas comme il faut. Oula, mais Seigneur, je vais le faire. Oui, c'est ça qui nous rend agréable à Dieu. Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur me donne la vision que l'église ressemble à une nurserie. Hein. Moi, non, mais ça, pour moi, ça serait un échec. Hein. Pour moi, ça serait un échec total. Si le Seigneur me disait, bah, écoute, ton église, c'était des bébés au biberon. Ah, moi, ce serait un échec, je ne vais pas vous mentir. Hein. J'espère que dans l'église, il y a de grandes filles et de grands garçons et d'adultes et d'hommes et de femmes qui disent, je ne veux pas rester à ce qui est bon, au salut, je veux rentrer dans ce qui est agréable, je veux découvrir même ce qui est parfait, parce que c'est pas malsain de chercher à faire de grands progrès. Et on les fera par la foi. Regardez dans la Genèse le parcours de Hénoch, et vous allez voir qu'il a fait des choix à une époque semblable à la nôtre. Parce que notre époque, vous le savez, ne va pas faire en s'arrangeant. Mais voilà, oui, tu comprends, si vous étiez à ma place, vous savez, les gens avec qui je travaille, mes frères et sœurs, où que ce soit que vous travaillez, même si vous avez un mari inconverti ou des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, ne trouvez pas des excuses. Où que nous soyons, nous pouvons marcher avec Dieu. Vous entendez ? Noé marchait avec Dieu dans son temps. Et dans le temps de Noé, tous les hommes avaient corrompu leur voie. Tous. Tous. Et bien Noé, il avait décidé de marcher avec Dieu. J'espère que c'est notre choix ce soir de dire, je marcherai avec toi et ta parole m'aidera à m'éprouver, à sonder mon cœur. Moi, je ne veux pas en rester à ce qui est bon, je veux découvrir ce qui est agréable. On ferme les yeux quelques instants. Nous voulons prier sérieusement, mes frères et sœurs. Vous savez, Dieu, il connaît votre cœur, mon cœur. Ces prières que David a pu faire il y a 2500 ans ou plus, 2008, ces prières, il faut que pour nous, elles soient utiles. Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je suis un bébé de 2 ans, de 5 ans, un enfant de 5 ans? Est-ce que je suis un enfant de 7 ans, de 10 ans? Vous comprenez mais cette image. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un adolescent, toujours en crise? Est-ce que je suis un jeune, insouciant? Ou est-ce que je suis un adulte, responsable? Je sais, par les textes que nous avons lus, mes frères et sœurs, que Dieu, il nous regarde. Et il voit quand quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, prie, mais quand quelqu'un surtout prie et lui fait confiance. Je ne sais pas si vous le savez, mais même si c'est un peu peut-être difficile à concevoir, un homme, une femme, peut être agréable à Dieu. Que Dieu peut vous regarder. Je ne sais pas si vous le réalisez, que Dieu vous regarde. Et, oh, il peut dire, cette fille, ma fille, mon fils, qu'est-ce que je les aime. Vous allez me dire, oui, mais Dieu aime tout le monde. D'accord, mais ce sont des bien-aimés alors. Parce qu'ils me font confiance. Vous n'aimeriez pas que quand les regards de Dieu se posent sur vous, Dieu dise, ah, ce fils, il m'est agréable. Il me fait confiance. Quand il lit ma parole, il le fait. Vous savez, moi je vous le dis avec mes mots, bien sûr, et ils sont limités. Mais ça doit quand même se passer comme ça. Demain matin, vous allez vous lever. N'oubliez pas que les regards de Dieu parcourent la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et croyez-moi, si nous sommes de ceux qui diront, c'est vrai, éprouve-moi Seigneur, montre-moi. Oui, je te fais confiance. Je travaille qu'avec des païens, eh bien ça fait rien, bénis-les Seigneur. Moi je veux les aimer et je te fais confiance. Parce que je suis persuadé au plus profond de mon cœur que malgré les chagrins, la tristesse, les offenses, etc., et les épreuves. Quand quelqu'un est agréable à Dieu, son cœur est rempli de joie. Malgré le chagrin des perdus, le cœur d'un homme peut être rempli de cette joie. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma joie. Une joie parfaite. Oui, ne restons pas ce qui est bon. Merci pour le salut. Merci pour la croix. Ça, c'est clair. Que demain, des milliers de Toulousains puissent dire merci Jésus pour le salut de mon âme. Mais on ne va pas en rester là. On va avancer. Seigneur, je veux examiner ce qui t'est agréable. Alléluia. Prions, mes frères et sœurs. Notre Père, tu le dis justement que la prière des hommes droits, des hommes intègres, t'est agréable. Nous ne voulons pas, Seigneur, que rien, rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Tu connais nos cœurs, Seigneur, et le peu que tu nous as laissé dans ta parole nous suffit pour savoir comment t'être agréable. Tu savais qui viendrait ce soir. Tu sais celui qui est dans le cafard, le chagrin, à cause de cela. Alors Seigneur, oui, comme David l'a fait, nous le faisons. Et Seigneur, éprouve-nous, sonde-nous, montre-nous ce qui t'est agréable. Nous ne voulons pas, Seigneur, des réunions pour des réunions, pour ajouter des réunions à des réunions. Nous voulons que chaque réunion contribue à devenir parfait, à devenir des hommes, des femmes, faits. Seigneur Jésus, tu vois nos foyers, nos couples, tu vois tout ce qu'il y a autour de nous. Accorde-nous la joie sur la terre de rendre un bon témoignage. Même si personne autour de nous devait se tourner vers toi, donne-nous comme pour Enoch, comme pour Noé, d'avoir ce bon témoignage qui fera que tu pourras dire, comme tu l'as dit pour Samuel, que nous te serons agréables. Vraiment, c'est notre prière, Seigneur. Que ton nom soit béni.